À mes auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Témoignages chrétiens, Marie avec vous. Aujourd'hui, deux témoignages, un frère franciscain et un pasteur évangélique. Le premier, le frère Benoît Dubigeon, franciscain, est aumônier de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, prêtre en Essonne et prédicateur au jour du Seigneur sur France 2. À l'occasion de la sortie de son livre « C'est ton visage que je cherche », il raconte ici son long parcours de témoin du Christ. Il nous dit « Je suis né dans un milieu catholique bourgeois et en même temps modeste. On comptait les centimes. Et nos parents ont dû ramer pour nous donner une bonne éducation. Aîné de 5 enfants, j'étais très sage. Je travaillais beaucoup et me confiais déjà beaucoup de responsabilités. Même quand j'étais ado, je ne faisais jamais de bêtises, ce que je regrette parfois. Après maths sup et maths spé, j'ai intégré l'école centrale de Nantes. Placée très vite en situation de médiation dans ma propre famille, je souffrais douloureusement du manque d'unité. Cela a marqué la suite. Si la vie était assez austère, j'ai aussi compris très vite que la réussite sociale ne fait pas le bonheur. Alors que j'étais à l'école centrale, j'ai reçu un jour une lettre d'un évêque du Togo du Nord. Il avait besoin d'un coopérant pour aider la jeunesse agricole catholique. J'ai prié, sans vraiment savoir ce que cela voulait dire, et j'ai répondu positivement. Cela m'a permis enfin de voir autre chose que ma famille et de faire autre chose que des études. Diplômée ingénieure en travaux publics, j'ai découvert la vraie joie de me consacrer à des personnes très pauvres, de servir ceux qui ne peuvent rien vous rendre en retour. Au milieu de ce séjour, j'ai fait une hépatite virale, nécessitant des soins intensifs à l'hôpital pendant 15 jours. Or, cette bienheureuse hépatite, comme je le dis maintenant, m'a valu de faire comme un retournement intérieur. Après l'hospitalisation, j'ai vite récupéré ma santé dans une abbaye bénédictine. Pendant un mois, j'ai vécu et prié comme un moine. Cette expérience spirituelle m'a fait découvrir la présence aimante du Seigneur par les psaumes. J'ai aussi découvert l'importance de la liturgie, premier lieu de ma formation chrétienne, et qui m'est essentielle depuis. Rentrée du Togo en 1980, j'ai travaillé comme ingénieur en travaux publics. Je me suis notamment occupée de canaux souterrains, sous les rues pour acheminer l'eau des pluies jusqu'à la Seine. Les pieds dans la boue, j'avais les yeux tournés vers le ciel. Puis j'ai suivi une retraite spirituelle chez les Jésuites. Mon accompagnateur spirituel m'a proposé de lire le passage de l'Évangile sur le jeune homme riche. Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as, etc. et suis-moi. » Marc 10, 21. Ce regard de Jésus, qui m'aime, m'a invité à discerner mon chemin avec l'aide d'un prêtre. Soit me marier et avoir des enfants, j'étais amoureux à l'époque, soit entrer dans la vie religieuse. Après avoir fait des stages chez les bénédictins de Landévennec dans le Finistère et après avoir rencontré des petits frères de Jésus de Charles de Foucault, j'ai compris ma vocation religieuse. Mener une vie contemplative forte dans une vie communautaire, tout en me mettant au service des autres. J'ai retrouvé ces 3 piliers en lisant la vie de saint François d'Assise et c'est lui qui m'a orienté vers les franciscains. Après avoir beaucoup invoqué l'Esprit-Saint, j'ai commencé le chemin qui allait me rendre heureux. Je crois en effet que l'Esprit me pousse à être heureux, en me faisant déployer toutes mes ailes au service des autres, et non à être un chrétien triste et à faire des sacrifices. J'ai d'abord suivi 2 ans de noviciat à Provins et dans la banlieue de Lyon, où je me suis mise au service du quart monde. Puis j'ai étudié la théologie pendant 5 ans chez les Jésuites au centre Sèvres à Paris. Avec le recul, je rends grâce à ces jésuites pour leur pédagogie. Ils m'ont poussé à donner le meilleur de moi-même, sans me faire entrer dans un entonnoir. J'ai fait un mémoire sur Saint Bonaventure, 1217-1274, un théologien franciscain connu notamment pour son œuvre Itinéraire de l'esprit vers Dieu. J'ai pu la travailler sur ses différentes facettes, philosophiques, théologiques, spirituelles, poétiques, psychanalytiques. J'ai ainsi été incitée à visiter ma propre psychologie, ce qui m'a conduit par la suite à pouvoir accompagner spirituellement de nombreuses personnes. Grâce au Père de l'Église, aux études d'hébreu et de grec, puis à la psychanalyse, j'ai accédé à des dimensions qui relèvent moins de la rationalité, la poésie par exemple. En tant qu'ingénieur, j'en avais besoin. J'ai fait ma profession solennelle chez les franciscains en 1988. Ce fut une époque riche où j'ai participé à la fondation d'une communauté à Saint-Denis, à l'endroit même où se sont installés les premiers frères du vivant de Saint-François en France. Et comme François l'avait fait lui-même à Assise, ce fut d'abord sous la protection des bénédictins. Je ne m'appelle pas Benoît pour rien. J'ai été ordonné prêtre à la basilique Saint-Denis en 1989. J'ai découvert ma vocation presbytérale en vivant comme franciscain, notamment au service des jeunes. J'ai compris que la vocation de prêtre était surtout une vocation au service des autres. Alors j'ai trouvé un travail dans la réhabilitation de l'une des cités les plus défavorisées en France, les Bosquets, à Montfermeil et à Clichy-sous-Bois. Je suis devenue le monsieur social, en rendant visite aux familles dans ces immenses bars destinés à être démolis ou rénovés et en coordonnant les actions gouvernementales sur place. La violence, les squats de trafic de drogue faisaient partie du quotidien. La violence a monté si bien que nous n'étions plus que deux à pouvoir y travailler. Un jour, en 1991, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat. Désormais en danger, j'ai perdu le sommeil. Réduit à faire de l'informatique au bureau, j'ai démissionné au bout de 6 mois. Ensuite, pendant 17 ans, j'ai travaillé dans l'enseignement catholique, dans des lycées technologiques comme professeur de maths et aumônier. Après quelques années en Seine-Saint-Denis, j'ai été envoyée dans le Nord, à Tourcoing. J'étais aussi au service des franciscains, à la pastorale des jeunes et à celle des vocations. J'ai aussi participé à des activités missionnaires dans des lieux où il n'y a presque plus de chrétiens, souvent dans des milieux pauvres. En 2008, j'ai été élue provinciale des franciscains, à ma grande surprise. Comme frère ministre, je me suis attachée à visiter et à encourager mes frères des 13 communautés de Lille à Béziers. J'ai beaucoup écouté. En pleine baisse des vocations, j'ai dû axer mon travail sur la situation patrimoniale et financière des franciscains et sur l'organisation des communautés. Pour certaines, la situation était difficile. Aujourd'hui, elle est critique. À la fin de mon mandat, en 2013, ma province de l'Ouest a fusionné avec celle de l'Est et la Belgique. Nous sommes passés de 1200 frères à 120 en 40 ans. Telle est notre condition. Un nouveau chapitre de ma vie s'est ouvert en 2013. Devenu chapelain du Centre spirituel de la Clarté-Dieu à Orsay, dans l'Essonne, pendant 9 ans, j'ai pu faire de l'évangélisation à la manière franciscaine, en impliquant de nombreux laïcs. Accueil de toute personne, animation plus dynamique de la liturgie, formation chrétienne à l'intelligence de la foi, témoignage, retraite. Nous avons suscité un intérêt pour la foi bien au-delà des cercles habituels. D'ailleurs, le Jour du Seigneur a diffusé sur France 2 pas moins de 7 messes télévisées ces années-là à Orsay. Mais l'an dernier, des changements d'organisation importants ont eu lieu. Je ne les ai pas souhaités et ils m'ont profondément blessée. J'ai du coup été accueillie comme franciscain par l'évêque d'Évry, Michel Pansard. Je suis ainsi devenue prêtre modérateur à Mourson-sur-Orge et membre du conseil presbytéral, tout en gardant des responsabilités chez les franciscains. Je poursuis ma mission d'aumônier à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Depuis 2013, je me rends auprès des détenus et célèbre la messe dans la plus grande prison d'Europe. J'ai cette passion d'aider les personnes à retrouver confiance en elles, à découvrir qu'elles sont toujours aimables. L'attention délicate à la personne est fondamentale. La prison est un milieu paroxystique. Les personnes incarcérées sont en dehors de la société parce qu'elles ont commis des actes répréhensibles. J'ai ainsi creusé en prison ce que l'esprit du Père et du Fils me donne de découvrir dans l'autre. Cet autre, qui peut parfois sembler haïssable, fait partie de la même humanité que moi. Il reste un homme, il a du prix aux yeux de Dieu. Il reste donc aimable, même s'il ne le sait pas. Je veux être au service de cette révélation, être témoin de cette bonne nouvelle que l'Église missionnaire porte surtout pour ceux dont elle est si éloignée. C'est aussi le message de mon livre qui prône la spiritualité de la rencontre. Notre foi n'est pas une religion, mais l'expérience de la rencontre avec le Christ et avec autrui. Plus j'aime le Christ, plus l'Esprit-Saint m'envoie vers les autres qui sont mes frères. En nous poussant toujours vers la rive de l'autre, il nous fait sortir de nos forces mortifères et de nos tombeaux. Il y a là une source de dynamisme fécond pour l'Église. Notre second témoin, Joël Thibault. Il coach le champion du monde, Olivier Giroud, qui n'hésite pas à louer les talents de son entraîneur spirituel. Mais qui donc est ce pasteur évangélique, professionnel du ballon rond et aumônier des sportifs de haut niveau? Dieu a de l'humour, dit-il. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour j'aiderais des sportifs à entrer par la petite porte de l'église, alors qu'enfant, je faisais le mur pour ne pas me rendre au culte dominical. Moi qui, adolescent, rêvais d'être footballeur professionnel, je suis devenu pasteur d'une église à Rennes. Ce n'était vraiment pas dans mes plans, ni dans ceux d'Émilie, ma femme, qui pensait épouser un professeur d'EPS. Son père étant pasteur, elle avait connu les galères de cette vie inconfortable et n'en voulait plus. Mais voilà, l'appel du Christ a été plus fort que tout. Ma passion pour le foot est née dans la cour d'école. J'étais constamment fourrée avec mon meilleur copain, Bastien, dont le père était entraîneur d'une équipe senior de district. C'était une famille de footeux, contrairement à la mienne. Pour mes parents, évangéliques de première génération, la vie de l'église devait passer par-dessus tout. J'ai eu du mal à les convaincre de m'inscrire en club, car ils avaient peur que les matchs le week-end ne m'éloignent de la pratique religieuse. Et de fait, à partir de mes 13 ans, j'ai commencé à jouer le dimanche matin et donc à m'écarter de Jésus, pour qui d'ailleurs je n'avais jamais eu un grand intérêt. Avec pour seul objectif de réussir dans le foot, je me suis mise à fond et j'ai réussi à gravir les échelons en tant que joueur et entraîneur de jeunes. Mais la pression, la compétition et la quête effrénée de performance ont peu à peu pris le pas sur le plaisir. L'enjeu a tué le jeu. Ce n'est pas évident pour un adolescent de se construire dans un milieu extrêmement dur où chaque club veut faire sa place et son nom, au prix parfois de petits arrangements entre amis. Je vivais d'autant plus mal cette situation que ma relation avec mon père était blessée depuis la classe de seconde à la suite d'un échec scolaire. À 18 ans, je me suis rendu compte que je n'étais pas heureux. Le sport ne comblait pas le vide en moi. L'été de mon bac, avant d'aller à l'université de Nantes, où je m'étais inscrit en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, je suis partie en vacances avec des copains rencontrés à l'église, dont Anthony, mon futur témoin de mariage. J'étais dans un tel mal-être que lors d'une soirée, j'ai décidé pour une fois de lâcher prise. Inutile d'entrer dans les détails. Disons simplement que, l'alcool aidant, j'ai vécu ma première expérience intime avec une inconnue. Un sentiment de honte et de culpabilité m'a alors envahi. Cette nuit-là, dans les larmes, j'ai pris conscience du mal que je pouvais faire aux autres et à moi-même. Et de mon cœur, au bout du rouleau, a jailli un cri, une prière authentique. « Dieu, si tu existes, viens à mon secours. J'ai besoin de ton aide et de ton pardon. » Il allait me falloir encore des années pour réaliser le mal que j'avais fait à mes parents et aussi pour pardonner à mon père. La conversion est un processus. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Cette fameuse soirée marque tout de même une rupture et le début de mon aventure avec Dieu. Je me suis installée à Nantes avec la ferme intention de ne pas céder aux tentations si nombreuses en Staps. J'ai ainsi passé la plupart de mes soirées dans ma chambre à prier et à lire les évangiles. Plus je lisais, plus je découvrais Jésus et plus je me laissais aimer et pardonner par lui. Jusqu'au jour où, saisie par l'Esprit-Saint, pendant un week-end de jeunes protestants, j'ai compris que le football était encore pour moi une idole. J'ai eu la conviction qu'il fallait que j'abandonne tout à Dieu, que je lâche le sport de compétition pour suivre le Christ et le suivre radicalement en devenant aumônier. L'humour de Dieu fait que précisément ce jour-là, Anthony m'a parlé de l'association Sport et Foi dont faisait partie l'un des leaders du week-end. Il voulait que je rencontre ce Laurent qui avait une équipe de football chrétienne. J'ai décliné sa proposition et je m'en suis tenue à ma décision. J'ai arrêté le football en club. Et j'ai profité de mon temps libre pour aller à l'église, étudier la Bible et réfléchir au lien entre le sport, le corps et la spiritualité. J'ai réalisé progressivement que la pratique sportive n'est pas incompatible avec une vraie relation au Christ, qu'elle peut même être une louange à Dieu, une activité spirituelle qui engage mon être tout entier. Tout dépend des motivations du cœur. Est-ce que je joue pour gagner à n'importe quel prix ou pour incarner la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et en témoigner autour de moi? Autrement dit, le problème, ce n'est pas le sport, puisque les hommes en font. Notre société l'a érigée en nouvelle religion. Elle a fait des sportifs, des idoles à adorer, de la performance, un acte cultuel et des marques de sport, un vêtement religieux. D'où le mal qui entache le monde du sport et le pourri de l'intérieur. Mais plutôt que de le fuir, il faut au contraire l'investir pour y véhiculer des valeurs de respect, de solidarité, de fraternité et de communion. Cette réflexion m'a encouragée à m'engager comme aumônier auprès de la jeunesse en milieu sportif. Chaque semaine, dans le cadre de l'association Foot pour Christ que j'avais créée avec Anthony, j'organisais des matchs avec des marginaux, des jeunes paumés, des sans-abri. Le fait de jouer tous sous le même maillot se révélait être un formidable moyen de se reconstruire, de retrouver l'estime de soi et pour certains de se tourner vers Dieu. J'ai continué cette mission à Lyon où j'ai été envoyée pour les besoins du ministère. C'est là que Dieu m'a donné son feu vert pour reprendre la compétition. Ton cœur a changé, tu peux y aller. De passage à Lille en 2011, pour une conférence sur le sport et la spiritualité, je pris contact avec le footballeur David Alcibiade. J'avais été son coach en 2005 dans un camp qui alliait le foot et la foi. Il s'apprêtait alors à intégrer l'Institut national du football, Clairefontaine. À 19 ans, il était plus que jamais tiraillé entre Dieu et les plaisirs mondains. Quelques mois plus tard, le Seigneur faisant bien les choses, il a rejoint le club du FC Nantes quand moi-même j'arrivais à Rennes. C'est ainsi que j'ai commencé à le suivre spirituellement et peu à peu, grâce aux bouche à oreille, je suis devenue accompagnateur spirituel auprès d'athlètes de haut niveau, dont des footballeurs professionnels comme Aurélien Collin ou Olivier Giroud. Comme je me suis fait connaître par mon travail, on m'a proposé de devenir aumônier du sport au sein des grands événements sportifs. Je me suis alors formée à partir de 2014 en Angleterre avec l'organisation Sport Chaplaincy UK. L'idée est de prendre soin des sportifs, de veiller à leur équilibre psychique et spirituel. Cette attention passe notamment par une écoute bienveillante, une présence gratuite. On leur propose aussi des temps de collectifs de prière, d'études bibliques ou de découverte de la foi. Les athlètes ont un besoin fou d'être considérés comme des humains à part entière, eux qui sont constamment réduits à leur performance. Je l'ai vérifié à chacune des compétitions pour lesquels j'ai été accréditée, comme le championnat du monde d'athlétisme à Londres, les Jeux de Rio ou ceux de Tokyo, mais à distance. Je ne suis pas un magicien ni un gourou. J'ai la foi. Je crois que Jésus peut transformer nos vies. C'est lui qui opère les miracles. Mon but est donc d'emmener ceux qui me font confiance vers Jésus et l'amour vrai, de les aider à vivre vers pour une autre gloire et une nouvelle liberté, de leur éviter des pièges aussi. Et ils sont nombreux dans le monde du sport. Quand on leur dit par exemple « Donnez de l'argent et vous serez bénis », je leur explique que c'est un mensonge. Ce type de troc mêlant requête spirituelle et échange d'argent et de la superstition. Des sportifs me l'ont déjà proposé et des sportifs qui en ont été victimes me l'ont aussi raconté. Jésus ne dit pas « Venez à moi avec de gros billets et vous gagnerez le match ». Mais il appelle à lui tous ceux qui peinent sous le poids du fardeau, afin de leur procurer le repos. Matthieu 11, 28. Autre erreur fréquente et qui m'exaspère, penser que si l'on connaît du succès, c'est que l'on est plus béni que les autres. C'est trop facile de mettre la foi d'Olivier Giroud en avant quand il est le meilleur buteur et de l'oublier dans les moments difficiles. Et pourtant, c'est souvent au creux des difficultés que l'on expérimente la grâce de Dieu, sa paix, sa présence. Olivier, lui, le sait bien. Grâce à l'amour du Christ, il n'a pas cédé à la rancœur, mais il a choisi la compassion et le pardon. C'est Dieu le super coach, pas moi. Amis auditeurs, merci pour votre écoute et à bientôt sur nos ondes dans une prochaine émission.